Vous écoutez France Culture. Il est midi et demi sur France Culture. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les affres de la Real Politique après avoir renoncé à livrer des bombes à Riyad. Le gouvernement socialiste espagnol, sommé de choisir entre les droits de l'homme ou l'emploi, s'apprête in fine à céder à l'Arabie Saoudite. Nous serons en ligne dès le début de ce journal avec notre correspondante Marie-Hélène Ballesteros.
Une immense démonstration de force de la puissance militaire russe.
Oui, Moscou entame à partir d'aujourd'hui des exercices d'une ampleur inégalée en Sibérie orientale et dans l'Extrême-Orient. Pour en parler, invité de ce journal, Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Quand l'extrême droite se sent pousser des ailes en Europe, Thomas.
Hier, le vice-chancelier autrichien a proposé de former un bloc commun au sein du Parlement européen avec le parti du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Et puis, s'agissant justement de la Hongrie, les eurodéputés doivent, eux, décider de l'opportunité de déclencher ou non une procédure visant à sanctionner Budapest, soupçonnée de graves violations des valeurs sur lesquelles l'Europe est fondée.
En France, à présent, les journées parlementaires de La République en marche.
Avec Alexandra Dubucheron et Stéphane Robert, nous tâcherons de comprendre comment l'exécutif entend resserrer les rangs de la majorité, en particulier en verrouillant ses bases grâce aux plus fidèles des marcheurs.
Enfin, un rapport sur la sécurité dont certaines propositions menacent d'ores et déjà de faire débat.
Oui, comme par exemple celle de rendre obligatoire l'équipement des policiers municipaux en armes à feu. Explication dans le journal d'Antoine Marette. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, on va s'arrêter sur la parole du pape aujourd'hui. Quelle valeur accorder, quelle légitimité, quel crédit donner à ces mots qui ont fait tant polémique ces derniers temps. Avec nous, deux invités, deux auteurs, deux essayistes qui seront là pour nous en parler. Elles s'appellent Christine Pedotti et Christiane Rancet. Et par téléphone, le réalisateur Wim Wenders, dont le film Le Pape François, un homme de parole, sort en salle demain.
Merci et à tout à l'heure. Comment s'indigner contre les massacres de civils d'un côté et justifier les ventes d'armes de l'autre? Parce qu'au champ d'honneur, elle avait préféré l'éthique, l'Espagne avait décidé la semaine dernière de bloquer la livraison à l'Arabie Saoudite de 400 bombes. Et ce, en dépit du contrat signé par le précédent gouvernement espagnol avec Riyad pour un montant de 9 millions d'euros. Sauf que depuis, Riyad ne décolère pas et menace à présent, en mesure de rétorsion, de revenir sur un autre contrat signé lui en juillet dernier, la commande de 5 corvettes pour près de 2 milliards d'euros, un contrat censé redonner de l'oxygène à l'entreprise publique espagnole des chantiers navals Navantia, avec à la clé la création de 5900 emplois pendant 5 ans. Et voilà comment le gouvernement progressiste du nouveau Premier ministre socialiste espagnol se retrouve à nouveau confronté au même dilemme, résister ou se soumettre à la Real Politique. Marie-Hélène Ballesteros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Madrid. Hier, l'Espagne s'est finalement montrée prête à débloquer la livraison d'armes controversées à l'Arabie Saoudite pour préserver sa relation stratégique avec la puissance pétrolière.
C'est bien ça, car le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, comme vous le disiez, doit faire face à une situation très compliquée. Alors d'une part, comme vous l'expliquiez, il y a l'aspect humanitaire, et c'est pourquoi l'Espagne a annoncé la semaine dernière qu'elle renonçait à cette vente de 400 bombes à guidage laser à l'Arabie Saoudite. Ce contrat avait été signé par l'ancien exécutif espagnol de Mariano Rajoy. Le nouveau gouvernement socialiste souhaitait donc annuler cette vente, redoutant que ces armes ne soient utilisées au Yémen, mais finalement, il a dû faire machine arrière. Car au-delà de l'aspect humanitaire, Madrid et Riyad sont des alliés de longue date et l'Espagne veut préserver sa relation stratégique avec l'Arabie Saoudite. Il faut dire que l'annonce de l'annulation de la vente des 400 bombes a mis en danger un autre contrat, comme vous le disiez, bien plus important pour l'Espagne. Il s'agit de cette commande de 5 corvettes pour 1,8 milliard d'euros. Ce contrat signé en avril dernier qui doit permettre le maintien de près de 6000 emplois en Espagne, notamment en Andalousie. L'Andalousie qui est une région durement touchée par le chômage et craignant de voir leurs emplois disparaître, les salariés de Navantia, l'entreprise espagnole de chantier naval, n'ont pas tardé à se mobiliser dans la baie de Cadix. Aujourd'hui encore, ils sont mobilisés en ce moment du côté de San Fernando à Cadix. Ils réclament toujours au gouvernement de Pedro Sánchez de garantir coûte que coûte leurs emplois et de maintenir ce contrat avec l'Arabie Saoudite.
Merci Marie-Hélène Ballesteros en direct de Madrid. Quand la guerre en Syrie s'invite dans le grand théâtre du Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle réunion a été convoquée pour cet après-midi afin de décider du sort de la province d'Idlib. Une réunion réclamée cette fois-ci par la Russie, c'est-à-dire celle-là même qui depuis samedi bombarde sans relâche avec les forces du régime de Bachar el-Assad, l'ultime grand bastion insurgé. comme la répétition d'un conflit de grande ampleur. Imaginez quelques 36 000 chars blindés et autres véhicules de combat. Ajoutez-y pas moins de 1 000 avions et 80 navires. Et enfin, 300 000 soldats. À titre de comparaison, l'armée française, elle, en compte 200 000. 300 000 hommes, donc, prêts à jouer à la guerre pour de faux, mais sur un terrain grandeur nature. Voilà peu ou prou à quoi devrait ressembler à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi le déploiement massif de troupes russes en Sibérie orientale et dans l'Extrême-Orient. Alors, pour parler de ces exercices militaires les plus importants jamais organisés par Moscou, nous recevons Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, on l'a dit, tout le répertoire moderne de l'armée russe sera de la partie pour participer à ces manœuvres. Concrètement, pouvez-vous nous dire ce que vont faire tous ces soldats, mis à part conduire donc des véhicules, piloter des avions, des bateaux, et puis pour ceux qui sont à pied, courir ou ramper avec un fusil dans les mains?
Alors déjà, il faudra voir ce qui sera vraiment déployé, pas déployé, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup de chiffres très impressionnants sur le papier, et je pense que les manœuvres seront de toute façon de grande ampleur, mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, on a l'impression de peut-être quelques exagérations, on ne sait pas ce qui sera du matériel vraiment fonctionnel, etc. Donc ça semble quand même assez important, il y a peut-être un effet d'inflation la part des autorités russes pour forcer le trait. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est surtout les messages politiques derrière ces très grandes manœuvres. C'est d'abord à mon avis des réactions par rapport à différents exercices de l'OTAN passés en juin en Pologne et dans les États baltes, à venir en octobre et novembre en Norvège. Et on sait que la Russie est assez sensible par rapport à ces futurs exercices. Peut-être justement le déploiement de forces militaires très important à un moment où on parle beaucoup du fait que la Russie doit réduire sa dépense militaire. Donc ce que veut dire la Russie, c'est je baisse peut-être ma dépense militaire, mais regardez, mon armée est modernisée, regardez de quoi je suis capable aujourd'hui. Vous-même, vous ne pouvez pas vous autant déployer autant d'équipements. Et puis enfin, la participation chinoise à ces exercices, qui n'est pas du tout anodine, parce que d'ordinaire, les exercices Vostok, donc Est, qui se tiennent tous les 4 ans, c'est plutôt pour traiter les menaces qui viennent de l'Est. Et donc là, on voit que le message, c'est plutôt de dire, nous ne sommes pas seuls face à la menace de l'OTAN, face à la menace américaine, et nous sommes même plutôt solidaires là-dessus, puisque nous nous estimons, dans une même mesure, soumis à la pression militaire et économique américaine.
Est-ce que ça veut dire que, au fond, tous ces exercices n'ont d'autre but que de démontrer la puissance militaire de la Russie et qu'ils n'ont finalement pas véritablement d'objet s'agissant d'exercer l'armée?
Ah oui, de toute façon, il y aura aussi une dimension évidemment plus opérationnelle, c'est-à-dire que les Russes, depuis qu'ils ont relancé la réforme de leur armée, donc c'est à peu près en 2008, ça fait 10 ans, puisqu'ils avaient gagné certes la guerre en Géorgie, mais on avait vu aussi que leur armée, elle était un peu de briquet de broc, pas forcément très en forme, et c'est là qu'ils ont lancé cette grande restructuration de leurs forces armées. Et depuis, un des points forts, on a beaucoup parlé du rééquipement, et on a pu l'observer en Syrie, un des points forts, c'est l'action au niveau de l'entraînement. Et donc, à chaque grand exercice stratégique que mène l'armée russe, on tire les leçons des opérations qu'on a menées ces dernières années en Syrie. Et donc là, évidemment, il y aura un effort qui sera fait porter là-dessus. Et il est intéressant de voir que certains responsables chinois ont mis en avant le fait qu'ils étaient qu'ils avaient hâte de pouvoir apprendre des Russes par rapport à l'expérience opérationnelle qu'ils ont accumulée en Syrie et qu'ils admirent, disent-ils.
Dans la mesure où ces exercices, par définition, sont censés simuler une guerre mondiale, qui sont les ennemis?
Bon, je crois que le message est assez clair, c'est-à-dire que même si les Russes disent nous sommes dans une logique défensive, et puis vous voyez bien ces exercices se tiennent à des milliers de kilomètres de la frontière de la Russie avec l'OTAN, on voit quand même bien que c'est quand même les États-Unis et l'OTAN qui sont visés. Et je pense que la participation de la Chine et le fait que ça se passe aussi à l'Est, ça traduit les préoccupations que les Russes et les Chinois ont par rapport à ce qui pourrait se passer sur le dossier coréen. Le risque d'un affrontement majeur partant de la péninsule coréenne, ça c'est quelque chose qui préoccupe les Russes et les Chinois dans une même mesure. Donc je pense qu'il y a aussi cet élément-là. Et on croit savoir que dans le scénario des exercices, il y aura la simulation d'un débarquement par voie navale. Donc là, on voit bien que c'est aussi les alliances des États-Unis dans le Pacifique et en Asie orientale qui sont sur le devant de la scène. Donc on pense évidemment à l'alliance avec le Japon et l'alliance avec la Corée du Sud.
Est-ce que le risque existe réellement ? Est-ce que nous avons des raisons d'avoir peur ou bien s'agit-il simplement d'une espèce d'affichage viril ?
Je pense que c'est la Russie qui est... quelque part à peur. Je pense que la Russie, en déployant ainsi sa force militaire et en jouant des muscles, ce qui est quand même aussi dans sa tradition, on avait eu tendance à l'oublier parce que dans les années 90, leur capacité militaire était passablement érodée. Mais voilà, la Russie a toujours joué du muscle militaire et je crois que une des raisons pour lesquelles elle joue des muscles militaires, c'est aussi pour justement impressionner et repousser le plus loin possible le risque d'un affrontement majeur avec l'OTAN et les États-Unis, dont elle ne pense certainement pas pouvoir sortir vainqueur.
Une dernière question très rapidement. Ces exercices se déroulent en marge du forum économique de Vladivostok. Est-ce que c'est un hasard du calendrier, voire un hasard heureux ? Quel lien peut-on tisser entre les deux ?
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le forum économique, il passe un petit peu à l'arrière-plan. Là, pour le coup, en termes de communication, on voit que les Russes mettent plus l'accent sur le volet militaire des choses. Mais en revanche, le forum économique de Vladivostok vise à montrer que la Russie est une puissance asiatique et je pense que un des objets de ce forum, ce sera aussi de montrer que le Japon n'est pas forcément visé par ces exercices et que la Russie est une puissance asiatique et qu'elle a d'autres partenaires que la seule Chine dans la région.
Merci Isabelle Facon, maître de recherche, donc je le rappelle, à la Fondation pour la Recherche Stratégique d'avoir été avec nous en studio aujourd'hui. Si à l'issue des élections législatives organisées dimanche, l'extrême droite suédoise reste encore pour l'instant du moins cantonnée dans l'antichambre du pouvoir, ces bons résultats ne sauraient faire oublier la puissance à l'œuvre aujourd'hui par la vague nationaliste qui parcourt désormais toute l'Europe. Nouvelle démonstration à l'appui hier. Le vice-chancelier autrichien et leader du parti d'extrême droite FPE a proposé de former un bloc commun au sein du Parlement européen avec le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, une main tendue qui pose notamment la question de la répartition des formations d'extrême droite à Strasbourg, car quand les unes sont actuellement réunies au sein du groupe Europe des Nations et Liberté, d'autres, comme justement le parti de Viktor Orbán, appartiennent encore au PPE, le Parti Populaire Européen, c'est-à-dire la principale formation de droite et de centre-droite au Parlement. Et puis s'agissant toujours de la Hongrie, les eurodéputés doivent décider de l'opportunité de déclencher ou non une procédure visant à sanctionner Budapest pour l'existence d'un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l'Europe est fondée. Une procédure rare qui n'a été déclenchée qu'une seule fois jusqu'à présent, c'était contre la Pologne en décembre dernier. Le cas échéant, la Hongrie pourrait donc aboutir, ce vote pourrait donc aboutir à une suspension des droits de vote pour la Hongrie dans l'Union européenne, sauf qu'on ne devrait a priori pas aller jusque-là. Pourquoi ? Élément de réponse depuis Budapest avec Florence Labruyère.
Viktor Orbán est confiant. Il sait que même si le Parlement européen recommande de déclencher l'article 7, le vote a peu de chances de déboucher sur des sanctions. Car il faudrait que l'exécutif européen vote ensuite à l'unanimité pour retirer son droit de vote à la Hongrie. Or la Pologne, qui soutient Budapest, a toujours dit qu'elle voterait non. L'article 7 est donc impossible à appliquer. Mais le lancement de la procédure serait une gifle symbolique pour Viktor Orbán. Le dirigeant nationaliste a longtemps bénéficié de la complaisance de sa famille politique, le Parti populaire européen. Mais aujourd'hui, certains membres du PPE sont excédés par la dérive autoritaire de l'homme fort de Budapest. Le chef du PPE, Manfred Weber, aurait téléphoné à Orbán pour lui demander d'abroger des lois jugées liberticides. En échange, il l'aurait assuré de son soutien. Finalement, les cartes sont dans les mains du Premier ministre hongrois. Viktor Orbán a toujours su tirer son épingle du jeu en évitant la confrontation au dernier moment.
Les indépendantistes catalans vont compter leurs forces aujourd'hui dans les rues de Barcelone à l'occasion de la Diada, la fête nationale catalane, un an après leur vaine tentative de sécession de l'Espagne, l'occasion ou jamais pour les indépendantistes de tenter de montrer un front uni sur fond de division accrue entre les plus modérés d'un côté qui veulent abandonner la voie unilatérale et puis les plus radicaux de l'autre. Au Brésil, c'est aujourd'hui que le Parti des travailleurs doit officiellement désigner son candidat pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 7 octobre. Fernando Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo, devrait annoncer sa candidature devant la prison où Lula purge actuellement sa condamnation à 12 ans de prison pour corruption. Alors, qui est ce Fernando Haddad? Élément de réponse avec notre correspondante Anne Vigna.
Le Parti des travailleurs a gagné à 4 reprises ces dernières années la présidence du Brésil. Mais cette année, la campagne électorale est particulièrement difficile. Le parti a dû renoncer à son favori et aucun de ses cadres n'obtient ni de loin la popularité du leader Lula. C'est l'ancien maire de São Paulo et ancien ministre de l'éducation Fernando Haddad qui a été désigné comme le remplaçant. Jusqu'à présent, Fernando Haddad n'a répété qu'un seul message.
Je ne suis que le porte-parole de l'ancien président. Et comme le coordinateur de la campagne, je suis simplement la représentation d'une idée.
À 55 ans, ce fidèle de Lula reprend donc ses phrases. « Vous pouvez m'emprisonner », avait dit l'ancien président, « mais vous n'emprisonnerez pas les idées que je représente ». Haddad doit à présent convaincre les électeurs de voter pour le projet politique porté par la gauche.
Je comprends que les électeurs de Lula s'identifient d'abord avec Lula. Ce que nous espérons, c'est que les électeurs de Lula s'identifient avec le projet politique que Lula représente. Personne n'est éternel. Et si l'on se projette dans 10 ou 20 ans, c'est le projet de la gauche que nous voulons consolider.
Haddad n'a désormais que 3 semaines pour se faire connaître de l'électorat. Il n'a participé à aucun débat présidentiel télévisé et n'est pas encore identifié comme candidat. Il n'obtient pour l'instant que 9% des voix selon les sondages, mais avec l'appui de Lula, il pourrait arriver au second tour. Un miracle que seul l'ancien président est capable de réaliser au Brésil.
La côte est des États-Unis se prépare activement à être frappée de plein fouet jeudi par le puissant ouragan Florence. Fermeture de dizaines d'écoles, des magasins pris d'assaut en Caroline du Sud. L'évacuation de plus d'1 million d'habitants doit commencer aujourd'hui sur une bande littorale de plus de 300 km de longueur. Après avoir été choisi hier pour être le candidat de la majorité au perchoir de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, marcheur historique, suit désormais une voie toute tracée jusqu'à la tête du Palais Bourbon, d'une part parce que son élection demain ne fait aucun doute, et d'autre part, diront certains, parce que c'était là le sens de l'histoire, même si en l'occurrence, cette ligne droite ne correspond pas franchement au sillon de la nouveauté que prétendait tracer le président Emmanuel Macron. Quoi qu'il en soit, et depuis hier, donc, les députés de La République En Marche sont réunis à Tours afin de préparer au mieux la rentrée parlementaire de demain. Et maintenant que la question de l'investiture pour le perchoir est réglée, reste à fixer les modalités de l'élection du président de groupe. On imagine que les conciliabules et autres spéculations vont bon train dans les coursives du palais des congrès tourangeau. Pas question pour autant de se dissiper. Et pour épargner une autre crise à la Macronie en cette rentrée compliquée, le Premier ministre en personne, Édouard Philippe, a tenu à rappeler ce matin le cap, mener à bien les prochains grands rendez-vous législatifs, ou dit autrement, resserrer les rangs de la majorité, tout en faisant passer quelques messages à ses détracteurs.
Beaucoup d'entre vous me l'ont rappelé hier soir. Il m'est arrivé de vous dire, il y a un an, lorsque les choses semblaient simples, qu'elles deviendraient plus difficiles. Je ne vous ai pas menti. Je vais peu parler de ce que nous avons fait depuis un an. J'en suis fier, vous devez en être fier, et je vous remercie de ce travail collectif. Vous savez parfaitement qu'on nous dira 1000 choses au fur et à mesure de notre avancée. On nous fera 1000 reproches. Nous ne devrons jamais les ignorer, mais ils ne doivent pas nous freiner. On nous reprochera nos hésitations lorsque nous serons exigeants. On nous reprochera notre irrésolution lorsque nous serons nuancés. On nous reprochera notre brutalité ou notre pusillanimité, cela dépend de qui s'exprimera, lorsque nous avancerons. On cherchera à discerner dans notre groupe, dans nos groupes, des divisions quand il y aura des débats. Mais vous inquiétez pas, on dénoncera notre servilité lorsque nous serons unanimes.
Le Premier ministre Édouard Philippe. Donc Alexandra Dubucheron, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes sur place à ces journées parlementaires où le Premier ministre que l'on vient d'entendre a visiblement mené ce matin une parfaite opération de communication.
Oui, Édouard Philippe s'est bien adressé aux députés, mais il l'a fait devant les journalistes et ce n'est pas anodin. Une élue du Loiret me confirmait à l'instant que lors de la réunion juste avant, à huis clos, les échanges avaient été plus francs. Pas tendu non plus, on l'a bien compris depuis hier, les parlementaires font bloc derrière l'exécutif en cette rentrée. Le chef du gouvernement s'est dit fier de ses troupes à qui il demande tout de même de se battre encore. Il a employé plusieurs formules pour qualifier la tempête estivale, le tourbillon de l'actualité et de petites phrases, dit-il. Édouard Philippe, qui est venu accompagné d'une poignée de ministres, a aussi donné le cap des 6 chantiers majeurs à venir. Plan pauvreté et hôpital, retraite et dépendance l'an prochain, mais aussi assurance chômage et santé au travail. Après l'an 1 des entreprises, ce sera donc l'an 2 des réformes sociales à partir de demain. Voilà de quoi regonfler les députés, notamment ceux qui hier encore s'inquiétaient de ne pas s'attaquer au pouvoir d'achat.
Merci Alexandra Duboucheron, direct de Tours avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Alors après une rentrée agitée, on le voit, l'exécutif entend bien resserrer les rangs pour éviter tout nouveau dysfonctionnement, quitte à ce que le nouveau monde s'accroche parfois studieusement à l'ancien. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Depuis quelques jours, le chef de l'État place ses proches aux fonctions essentielles, dernière en date. Jérôme Rivoisi, qui devrait prochainement être nommé directeur général des services de la présidence de la République.
Jérôme Rivoisi, oui, qui sera chargé de réorganiser les services de l'Élysée et notamment de mettre en place des procédures transparentes, nous dit le journal Le Monde, citant un proche du chef de l'État. C'est un ancien de la promotion Léopold Sédar Senghor à l'ENA, la promotion 2004, la même qu'Emmanuel Macron. Il a débuté sa carrière à Bercy, a ensuite travaillé pour le tribunal administratif de Paris, est passé par l'inspection générale des finances, puis est devenu en 2014 directeur adjoint de Pôle emploi. C'est donc quelqu'un qu'Emmanuel Macron connaît depuis de nombreuses années. On sait aussi qu'il est en train de réorganiser la communication de l'Élysée autour d'un de ses plus fidèles lieutenants, Sylvain Faure. Jusqu'ici, Sylvain Faure avait en charge l'écriture des discours du président. Et puis c'est aussi en vertu de sa fidélité et de la confiance que lui accorde le chef de l'État que Richard Ferrand va monter au perchoir et prendre la présidence de l'Assemblée nationale. On voit donc effectivement qu'Emmanuel Macron resserre les rangs et s'entoure de fidèles. Il semble tirer là les enseignements de l'affaire Benalla et d'une rentrée politique difficile avec notamment la démission de Nicolas Hulot. Mais cette façon de gouverner du chef de l'État en s'appuyant uniquement sur un noyau de fidèles en qui il a toute confiance est ce qui lui était déjà reproché auparavant, avant déjà tous décidaient à l'Élysée autour du secrétaire général Alexis Keller, au point qu'on a parfois l'impression que les ministres eux-mêmes ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe dans leur ministère. Dès lors, si cette façon de resserrer les rangs un peu plus encore peut avoir pour effet de limiter les dysfonctionnements, elle peut aussi conduire à une bunkérisation du chef de l'État, plus grande encore que ce qu'elle n'était déjà, et à accentuer le sentiment d'une déconnexion que peut ressentir une partie de l'opinion.
Merci Stéphane Robert. Deux députés de La République En Marche doivent remettre aujourd'hui au Premier ministre un rapport. 78 mesures pour renforcer le rôle des policiers municipaux, mais aussi élargir les domaines dans lesquels les sociétés privées de sécurité pourront suppléer les services de l'État, le tout sur fond de menaces terroristes. Et gageons d'ores et déjà que certaines de ces propositions ne manqueront pas de faire débat. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
En particulier, ce rapport préconise de rendre obligatoire l'équipement des policiers municipaux en armes à feu.
Effectivement, alors dans les faits, 84% des policiers municipaux sont déjà équipés d'une arme, 44% possèdent même une arme à feu. C'est le maire de chaque commune qui le décide et ce rapport propose d'inverser la situation, rendre l'armement obligatoire, sauf si le maire décide du contraire. Alors pourquoi armer des policiers municipaux, jusqu'ici en charge de questions liées au quotidien des habitants, comme le stationnement ou par exemple le contrôle de la propreté? Eh bien parce que la société est perçue comme de plus en plus violente et les forces de l'ordre, dans leur ensemble, sont confrontées à cette violence. Avec la menace terroriste, elles deviennent même des cibles potentielles. Sur cette question, on constate un clivage, pas totalement uniforme non plus, entre maires de gauche, plutôt opposés à l'armement de leur police municipale, et maires de droite, plutôt favorables. Et l'une des réactions ce matin est celle du maire EELV d'Arcueil. Christian Métairie affirme que les agents municipaux n'ont pas vocation à interpeller les gens et faire des contrôles. Pour lui, c'est à la police nationale d'intervenir pour cela. Le rapport plaide également pour la montée en puissance de la sécurité privée sous la surveillance de l'État. Il y a actuellement en France 165 000 agents privés. La mission déplore un service souvent médiocre. Elle propose une réforme du recrutement de ses agents, une meilleure formation, En contrepartie, les deux députés suggèrent de leur confier plus de missions, jusqu'ici réalisées par les forces de sécurité de l'État, comme par exemple la protection des personnalités.
Merci Antoine Marette. L'économie française a créé 12 500 emplois nets au dernier trimestre. Une bonne nouvelle donc, à ceci près que le chiffre publié est le plus faible depuis le troisième trimestre 2015. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui estival sur l'ensemble du territoire. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 21 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.